Oh, when the sky come
falling
falling
down.
for you, there's nothing else I wouldn't do.
Do.
What if I fall from heaven?
That's it.
De Q.
5, 6, 7 et 8.
Salut tout le monde, bienvenue sur le No Show en compagnie de
Monsieur Jonathan Riopel
et Sébastien Jubinville.
On l'a fait à l'envers un peu, mais c'est pas grave.
Je te présente, tu me présentes, t'aimes ça?
C'est comme ça qu'on marche?
Ouais, ouais, pourquoi pas.
Hey, salut tout le monde, comment ça va?
Moi, ça va super bien, toi?
Ça va super bien, ça va super bien. Part 2 du confinement, on va appeler ça de même.
Part 2 du confinement. Puis, on peut le dire, hein? Nous autres, on a enregistré un podcast la dernière fois qui s'appelait « Demander de l'aide » puis « Oser demander de l'aide » avant part 2 du confinement.
Ouais.
Puis, ça a floppé parce qu'il y en a un ou deux, on ne dira pas lequel, il n'y avait pas son micro d'allumé tout le long du podcast. Fait que là, à soir, on a décidé d'en enregistrer un autre. Le même sujet, mais sûrement pas le même contenu parce que nous autres, on n'écrit pas nos textes sur un Télus Fleur avant. Là. On est
et
trop voilà. Nice, on y va à l'intuitive.
On y va à l'intuitive. Mais tu as un bon point sur un truc, par contre. Demander de l'aide. On avait parlé l'autre fois. Puis pourquoi qu'on voulait parler de ça, moi, puis Joe? C'est pas compliqué. On est deux personnes qui ont eu à en demander de l'aide à un moment X de nos vies. Puis une fois, peut-être pas juste une fois, plusieurs fois. Moi, personnellement, il a fallu que je pile sur mon orgueil pour demander de l'aide, que je pile sur ma fierté, que je pile sur... Puis, honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui m'avait tant retenu à demander de l'aide, qu'est-ce qui m'avait tant empêché de demander de l'aide. C'est-tu de peur de décevoir? Je sais pas. Fait que c'est ça, je voulais un petit peu qu'on revisite aujourd'hui avec toi, Joe, qui est un grand connaisseur du cerveau humain. Puis je le dis sans sarcasme, honnêtement, ceux qui le connaissent, ceux qui ont entendu des podcasts avec Joe, c'est un être extrêmement, extrêmement posé, intelligent, avec une profondeur. C'est ça. C'est Joe Riopel, puis on adore ça parler avec lui. Puis je voulais savoir un petit peu ta vision des choses. Qu'est-ce qui fait, pourquoi premièrement on demande de l'aide? Quand on en demande, qu'est-ce qui fait qu'on a peur de demander de l'aide? Puis qu'est-ce qui fait que quand on a demandé, même des fois, je pousse la loque un peu, qu'est-ce qui fait que des fois, on a honte de dire qu'on a demandé de l'aide? On a trois étapes, là.
Tu me rappelleras les trois étapes, OK? parce que je vais partir sur une chaire, puis à un moment donné, il va falloir que tu me ramènes au fil conducteur. Mais tu sais, rapidement, là, ce qui me pop à l'esprit comme un gros flasheur rouge là, dans la nuit, là, c'est la honte. Tu sais... Quand on est devenu dans notre vie adulte, puis qu'on s'est fait à croire que quand on serait adulte, on serait autonome, qu'on serait bon, qu'on serait capable, que tout serait
invincible.
Puis qu'on arrive à un moment donné au constat que c'est pas vrai, qu'on est si bon que ça, puis qu'on est si capable, puis qu'on est si autonome, puis qu'on est capable tout seul, tu sais.
Mm-hmm.
On a honte parce que c'est comme si on avait été malhonnête avec soi-même, tu sais. Et non seulement ça, mais on a honte aussi parce que là, il faut admettre notre impuissance, notre incapacité. On a honte parce que, justement, on s'est fait accroire. On s'est fait accroire, puis on y a tellement cru, tu sais. Puis en fait, on se sent blessé d'admettre qu'on a besoin d'aide. Et je vous dis ça parce que je viens tout juste, moi, récemment, d'admettre que j'avais besoin d'aide. T'sais, toute la semaine passée, j'ai dit à des amis que je partais pour 5 journées de ressourcement, mais ce que je suis allé faire, moi, le petit coquin, c'est que je suis allé faire une thérapie.
Okay.
Thérapie sur mes dépendances, en fait, qui ne sont pas des dépendances... des dépendances matérielles ou des dépendances à la substance, tu sais, mais c'est mes dépendances affectives, mes dépendances à certains traits de caractère, à mon ego, à certaines stratégies okay. que j'utilisais dans ma vie de tous les jours pour fonctionner, tu sais. Je me disais, il me semble que je mérite encore mieux. Il me semble que je suis encore un peu insatisfait, tu sais. Une thérapie, c'est un cadeau. C'est quand on...
Oui, c'est 100% d'accord avec toi.
Quand on observe à l'intérieur de soi notre vraie valeur, notre vrai potentiel, puis qu'on se dit, il manque encore un petit peu d'outils dans mon coffre pour le développer pleinement. Puis je suis vraiment allé vivre cette semaine-là de cette façon-là. Okay. C'était pas évident. J'ai rencontré vraiment une thérapeute formidable qui est capable d'autant de douceur que de férocité. Donc, okay. À te rendre dedans à coups de deux par quatre pour te faire comprendre la vérité, puis après ça, être rempli d'amour avec toute sa douceur. J'ai adoré ma semaine. Il faut vraiment être fou pour penser qu'on voit clair à propos de soi à 100%. Puis, faut vraiment admettre notre impuissance de ce qu'on voit pas qui se trouve tout le temps dans nos angles morts. T'sais. Mais c'est important d'aller à la découverte de ce qui est dans nos angles morts de façon sécuritaire. On va pas à la découverte de ce qui est dans nos angles morts dans un environnement non sécuritaire. Fait que c'est important de le faire avec un professionnel. C'est important de le faire dans un endroit où est-ce qu'on se sent bien aussi. Mais ça devient vraiment une bénédiction de le découvrir, de l'admettre, de grandir, de se pardonner, de passer à autre chose aussi. Donc, voilà pourquoi on a tant de mal à demander de l'aide. Et puis là, je pense à plein de gars aussi. qui ont l'orgueil gros de même, là, qui ont « ben non, moi, j'en ai pas besoin. » Écoute. Si toi, t'es si unique et si spécial pour dire que t'en as pas besoin, là, honnêtement, là... juste de dire ça, c'est la preuve que tu en as besoin, en fait.
Mais je suis content que tu dises ça puis que tu apportes ça parce que c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Moi, on recule d'il y a bientôt 4 ans, ça fait 3 ans et demi. J'ai le monde qui me connaisse, le monde qui écoute le podcast commence à savoir. Ben, attends, j'en parle à chaque petit podcast, même si ça n'a pas rapport à lui, mais bon. J'ai perdu mon père il y a 3 ans et demi. Ça a été la pire fucking épreuve de ma vie. Sur plein d'affaires, là. Autant moi personnel, je venais de raconter Karine, nomme-les toutes. Puis j'ai eu ça. Tu sais, tu dis l'ego, l'orgueil, la fierté d'être un gars, faire comme non, c'est pas vrai que je vais aller consulter, c'est pas vrai que. Esti, j'étais en train d'échapper. Honnêtement, je dirais tout le temps, j'étais à une ou deux décisions près de perdre tout ce que j'ai aujourd'hui. Dans ma vie. T'sais, là, on est rendu en 2020. Moi, je suis rendu à un stade de ma vie là. Je peux facilement dire et je suis où est-ce que je devais être. Je suis à la place. Je suis papa du petit Nolan. Je suis le conjoint de Karine Marcoux. Je suis un des grands chums à Jury Appel. Je suis où est-ce qu'il fallait. Je suis où est-ce qu'il fallait. Ma job, mes amis, tout, nomme-les tout. Mais pour avoir eu tout ça, il a fallu un moment donné que je m'arrête. Moi, personnellement, il a fallu que je fasse un cauchemar. Il a fallu que je fasse un cauchemar de mon père qui quasiment me reniait, qui m'en voulait, qui me lassait, un genre de « t'as pas voulu m'aider, tu mérites pas que je t'aide. »
Ça en disait long sur tes valeurs versus les décisions que tu prenais à ce moment-là.
Tu veux dire?
Que t'en rêves la nuit.
OK.
je viens d'ouvrir une boîte de Pandore.
Oui.
La signification des rêves. Ben, moi, je suis vraiment pas un expert en signification des rêves, mais je sais que chaque rêve sont symboliques. C'est-à-dire, il y a une morale en fonction de tes valeurs derrière la scène, tu sais.
Tout à fait.
C'est un symbole énorme de voir ton papa qui te renie. Tu sais, c'est comme s'il disait, tu sais, si ton père pouvait, je sais pas qu'est-ce qu'il symbolise pour toi, mais il symbolise, de la façon que tu m'en parles, l'incarnation de valeurs que tu apprécies beaucoup. Puis c'est comme si le chef de tes valeurs venait te voir dans ton sommeil pour te dire « Mon chum, pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. »
C'est ça, tu dérailles.
Exactement.
C'est un petit peu ça, oui. Moi, c'est ça qui a fait quand je me suis réveillé. J'ai fait « Non, je commencerai pas. » Parce que moi, je rêvais beaucoup. Je faisais beaucoup de cauchemars quand même. Mais c'était quand même... Mon père était présent dans mes rêves. Mais souvent, c'est une question de « je le voyais ». Des affaires de moi. C'était pas relié à lui. Il était présent dans mes rêves. Mais celui-là, quand il m'a fait un genre de t'as pas voulu m'aider, dévoue-toi, garçon. T'sais, bref, c'est pas le but du podcast. Sauf que là, quand je me suis réveillé, j'ai fait non, c'est pas vrai que je vais essayer de me démerder tout seul dans ma merde. Il y a de quoi qui se passe, il y a quelque chose qui marche juste pas là, dans ma tête. Puis c'est là que j'ai fait bon, il faut aller chercher de l'aide. Clairement, le monde autour de moi, pas qu'ils me donnaient pas de l'aide, au contraire, tout le monde qui a été là pendant ce temps-là, mes amis, Karine, ma mère et mon frère ont été d'une aide incroyable. Cependant, je pense qu'il est arrivé dans mon cas, il me connaissait justement. Il me laissait vivre ma peine à ma façon. Il me laissait, tu sais. Fait que moi, pendant ce temps-là, comme tu as dit tantôt, je me pensais invincible. Ça va passer, ça va s'arranger, ça va se régler, ça va. Non, non, ça se règle pas. Comme tu dis, quand tu as un problème qui est grave, puis je te parle pas de choisir entre une calotte rouge puis une calotte bleue, parce que oui, j'ai déjà eu ces problèmes-là, puis j'ai demandé...
Toi, c'est un grave problème, ça.
C'est ça que j'allais dire, puis je demande souvent de l'aide à Karine pour ça, tu sais. Mais tout ça pour dire que, là, c'est là, je suis allé en chercher. Moi, j'ai essayé d'aller en chercher au début avec beaucoup un petit peu de lecture. J'ai commencé à lire un peu, parce que mon père, c'est un grand lecteur, donc j'ai commencé à essayer de lire. Mm-hmm. J'ai lu trois livres, dont Le bonheur d'apanage, de Jonathan Riepel. Le succès d'apanage, excuse-moi. On recommence
c'est vrai,
ce bout-là.
T'as lu ça dans cette période-là de ta vie?
Non, c'est plus tard, c'est un peu plus tard. Mais ça fait partie de mon cheminement quand même. Mm-hmm. Puis, il y a eu la lecture, il y a eu les podcasts. C'est là-dedans où j'ai commencé les podcasts. Pas que j'ai commencé moi mes podcasts, mais j'ai commencé à m'intéresser aux podcasts parce que j'en écoutais beaucoup. Puis ça m'a vraiment donné un genre de petit... Si je ne suis pas tout seul à vivre ça, là. Mm-hmm. Je vais vivre par-dessus. Puis ultimement, ben, je n'ai pas eu le choix. Je suis allé chercher de l'aide professionnelle pour moi parce qu'il me manquait quand même le petit virage qu'il fallait que je fasse, que je suis allé chercher. Puis depuis ce temps-là, comme je te dis, je n'ai jamais été plus à ma place parce que le jour où j'ai fait mon ménage, puis tu sais, juste... Petite parenthèse, dans l'aide que je suis allé chercher, au bout d'un certain temps, j'ai eu une autre belle claque dans la face de mon père parce que tout ce que je me faisais dire, je le savais déjà, je l'appliquais juste pas. Tu sais, fait que c'est encore fait. Vieux sage, t'avais raison. Donc, ouais. Sauf que là, à partir de là, quand j'ai pris le temps, comme t'as dit toi, ce que tu viens de faire la semaine passée, quand j'ai pris le temps d'investir sur moi, ça a tout changé. Ça demandait beaucoup d'orgueil parce que je ne l'ai pas dit à personne sur le coup. Ça a été long, hein, je veux dire. Ça a été long, mais je suis capable de dire. Puis c'est là, ça amène à mon autre question.
Tu veux dire, ça t'a demandé beaucoup d'humilité?
Beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Puis ça m'amène à ça. Parce que là, on le sait, pour demander de l'aide, il faut avoir un problème. On pourrait peut-être regarder des fois pourquoi on attend tant à aller chercher de l'aide. Parce que des fois, on pourrait le résoudre tout de suite. Puis pourtant, on pose tout à notre doc, peut-être, comme tu as dit, à cause du sentiment d'invincibilité ou de l'orgueil trop élevé qui fait qu'on se dit tout le temps, ça va passer, ça va s'arranger, je vais m'arranger, mais on sait que pour aller demander de l'aide, c'est qu'on a un problème. Une fois qu'on a cherché cette aide-là, je te posais la question au début, puis il fallait que je t'en note. Pourquoi qu'après? Tu sais, j'étais bien pourtant, là. Je le voyais, là, ça avait de l'effet, ça a fait l'effet que j'escomptais. J'ai été capable, à partir du jour que j'ai compris que j'avais tous les outils en moi, que je les avais juste pas... Tu sais, j'avais le coffre à outils, je l'avais juste pas ouvert. Finalement, on va dire ça demain. Une fois que j'ai ouvert ce coffre à outils-là, c'est là que mon virage, on dit un 360, mais c'est un 180, en fait. Mon virage 180, c'est fait, dans le sens que là, j'ai fait un ménage. Autant... Là, on parle pas de semaines, on parle de mois et d'années. J'ai fait un ménage autant dans mon cercle d'amis, dans ma job, dans toutes les petites parties néfastes qui... justement, qui faisait obstacle à mon bonheur, j'ai décidé tout le temps de ça. Mais avant que je sois capable de dire, hostie, c'est là, fallait choisir. Je te dirais que c'est là que j'étais capable de dire que je t'ai cherché de l'aide. Avant, j'en parlais pas à personne. Peut-être une ou deux personnes qui savaient. Avant ça, je le disais juste pas. Puis pourtant, à cette heure, tu me reposes des questions, puis tout le monde qui m'en parle, je suis même pas gêné de le dire. Je suis comme...
Mais c'est parce que tu es victorieux d'avoir demandé de l'aide. T'sais, si ça avait demandé de l'aide puis que le résultat avait été pourri, peut-être tu aurais encore honte aujourd'hui que tu n'en parlerais pas. Mais là, t'es couronné de succès d'avoir demandé de l'aide. Donc, c'est devenu une fierté.
Puis, en tout cas, y a-tu une aide qui est mauvaise? Mauvais? Une aide? En tout cas, bref. Y a-tu une aide qui est pas bon?
Moi, j'ai l'impression que l'être humain est profondément bon. À partir du moment où l'intention est bonne, puis que tu te laisses accompagner par d'autres êtres humains qui ont des bonnes intentions, tu ne peux pas vraiment reculer. Hein? C'est toujours un petit pas vers l'avant de plus à chaque fois qu'on a la volonté d'avancer dans la vie.
Ben, c'est ce que j'allais dire. Fait que, peu importe l'aide, elle ne donnera peut-être pas les résultats que tu pensais. Ça, je suis d'accord. Mm-hmm. Mais elle va quand même t'avoir... Elle peut pas te nuire. T'sais, un aide ne peut pas, théoriquement, comme tu dis, à moins que ce soit mal intentionné, est-ce que on n'espère jamais, mais tu sais, quand tu vas chercher de l'aide, quand même que c'est peut-être pas la ressource, parce qu'encore là, ça, c'est une autre histoire. Certaines personnes veulent aller chercher de l'aide, puis, tu sais, ils pointent l'aide qu'ils veulent. Le signe, l'aide, le résultat qu'ils veulent. Si c'est pas ça, c'est un échec. Là, il y a peut-être aussi un problème d'attente là, là-dedans. Là, si tu t'attends de te faire donner la réponse à ton problème, pas la réponse, la résolution à ton problème sur un plateau d'argent, sans faire les efforts, sans faire les compromis, sans peut-être peser les pots et les comptes, parce que comme on vient de dire, l'aide, moi, dans ma tête, je ne pense pas que ce soit en temps normal, 90% du temps, là, mal intentionné, c'est tout le temps bien intentionné. Donc, l'aide qui est bien intentionnée, c'est d'en prendre la bonne partie dedans. Ça ne veut pas dire que toute l'aide qui t'est donnée te convient à toi, mais il y a certaines parcelles là-dedans qui t'appartiennent. Puis je pense que tirer ceux-là le plus possible puis les maximiser.
Mmh. Oui, puis c'est aussi d'arrêter de penser qu'on est à 100% maître de notre vie. Il faut être 100% responsable de notre vie, selon moi. Mais c'est pas juste une question de ce que je veux ou ce à quoi je m'attends de ma vie. Mais c'est aussi de laisser une grande, grande place à ce que la vie s'attend de moi également. Puis en fonction de l'aide que tu vas aller chercher, tu vas peut-être pas nécessairement atterrir dans le pays que tu avais visé là, au début quand tu planifiais ton voyage, tu sais. Sauf que le pays où tu vas atterrir, ça va peut-être être tout aussi magnifique, même si c'est complètement ailleurs. Tu sais, faut sortir de nos peurs, faut sortir de nos inquiétudes, faut sortir de nos attentes gigantesques qu'on a créées 100% par soi-même, puis se laisser aller dans le flot de la vie aussi à partir du moment où on demande de l'aide. Mais je pense que n'importe quel individu qui est tanné de souffrir, qui demande de l'aide véritablement, est prêt à considérer cette partie-là de lâcher prise, puis de se laisser aller un peu dans le flot de la vie, tout en n'étant pas naïf, puis en restant vigilant, tu sais, aware sur... l'aide qui se présente à soi aussi.
Oui, puis j'aime comment tu viens de le dire. La personne qui l'a fait pour les bonnes raisons, la personne qui va aller chercher de l'aide parce qu'elle sait qu'il y a un problème. C'est toi, tu viens de le dire. Tu es allé à quelque part, pour en reparler d'ailleurs de ça, tu es allé à quelque part la semaine passée parce que tu savais que tu avais certains problèmes de dépendance. Donc, tu es prête à subir les conséquences, de, comme tu disais tantôt, de manger un coup de 2x4 d'en face aussi. Mm-hmm. Ça va avec. Versus la personne qui va à contre-cœur, c'est là peut-être, on vient de toucher un point, la personne qui s'attend à voir tout sur le plateau d'argent, peut-être qu'elle y va pas pour les bonnes raisons non plus. Là.
Non, puis si tu n'es pas prête à atterrir dans une nouvelle destination.
Une zone d'inconfort, mettons. Hein.
Oui, exact. Tu n'es peut-être pas prête à recevoir de l'aide non plus, tu sais, parce que si tu le sais tant que ça, ce que tu as besoin, ben, tu n'as peut-être pas besoin de demander de l'aide, tu sais. Continue d'y aller par toi-même. Ouais, c'est à ça. Partir du moment où tu admets que tu as besoin d'aide, il faut en même temps que tu admettes que... Il ne faut pas aller là où tu penses qu'il faut aller dans ta tête non plus. Tu comprends ce que je veux dire?
Parce que clairement, si tu vois où est-ce que tu pensais aller, ça aurait pour régler le problème.
Non, c'est ça. Puis moi, je le dis souvent en coaching, tu sais, assurez-vous que vos nouvelles solutions ne deviennent pas vos nouveaux problèmes. Oh. Parce que, tu sais, quand tu es replié sur toi-même puis que tu penses que tu es le dieu de ta vie puis que tu as toutes les réponses, t'as bien beau être le plus intelligent puis le plus créatif, mais à chaque solution que tu trouves à tes problèmes, ça devient rapidement un nouveau problème, tu sais, parce que tu te vois pas, t'es victime de tes propres patterns. C'est pour ça que tu vas demander de l'aide à l'extérieur de ton système, tu sais, tu t'en vas te confier à quelqu'un qui a pas rapport dans ta vie, qui va t'aider à pas répéter le pattern que tu vis dans ta vie, tu sais, c'est ça l'utilité d'aller à l'extérieur.
Mais je pense qu'ultimement, t'as pas le choix. Faut quand même que tu sortes un peu parce que, comme je t'ai dit, j'ai eu énormément d'aide pour ma part, dans ce que j'ai vécu, de mes proches. Mais il y avait quand même quelque chose qui bloquait tout le temps parce que autant ils me connaissaient, autant j'y connaissais, j'y voyais venir à 100 000 à l'heure, et ainsi de suite. Fait que je pense que oui, ça prend quelqu'un d'extrêmement neutre qui est capable de te rentrer dedans, comme tu dis, qui est capable de qui va aucunement sur le côté émotif ou sentimental ou de l'histoire de la personne parce qu'elle la connaît pas, cette personne-là.
C'est ça.
Faut qu'elle aille avec Sébastien, qu'est-ce qui est...
Moi, je me dis tout le temps, quand tu demandes de l'aide, vas-y, all-in. T'sais. Moi, je t'ai arrivé la semaine passée au début de la thérapie. Puis, tu sais, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est quand vous êtes en sécurité, dans l'environnement dans lequel vous demandez de l'aide, Soyez vraiment l'esprit puis le cœur ouvert. Devenez le meilleur élève qui soit. T'sais, soyez prêt à manger des coups de deux par quatre d'en face.
Ouais,
on est là pour vivre un changement. On est là pour vivre une transformation. On est là pour rentabiliser notre investissement. Ouais, moi, j'en voyais dans la salle, un peu plus fermée, encore dans leur tête, en train d'analyser tout ça. Là. Chaque minute que tu passes à analyser tout ça, c'est de l'argent gaspillé aussi.
Super, hein, oui.
À moins que tu sois été payé et que ce soit gratuit. Là, mais je me dis, moi, là, ça, avant d'arriver dans cette semaine-là, dans le fond, ma prise de conscience, pourquoi je suis allé, c'est que je réalisais que au niveau du couple, ça va faire 7 ans que je suis avec ma blonde. Puis c'est pas qu'on se déteste ou qu'on est intense ou on est extrême, mais c'est juste qu'au fil des années, surtout après que Théo soit né, on est devenu une famille, mais plus tant que ça, un couple. C'est ça qui arrivait au fil du temps. Puis ça se fait tellement lentement et disgracieusement que tu le vois comme pas. Puis à un moment donné,
ça te frappe d'en face. Là.
Ben, tu fais comme coudon, y a-tu encore quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Puis ma blonde, on s'est fait le cadeau d'aller faire la même thérapie, mais de façon individuelle à un mois et demi d'intervalle.
OK.
Fait que quand on revient toutes les deux après, là, on peut parler le même langage, faire les mêmes devoirs, puis s'en aller dans la même vision commune. C'est vraiment...
Fait que là, Catherine, dans le fond, elle était là un mois avant toi, finalement.
Exactement, c'est ça.
Elle pouvait t'analyser après. Elle.
Ah ben moi, en fait, j'ai été chanceux de le faire le deuxième parce que quand je suis revenu après, j'ai eu un accueil extraordinaire. Tu sais, elle savait là, dans quel état d'esprit j'étais. Uh-huh. Alors que elle, quand elle est revenue la première fois, moi, j'avais aucune idée. Je l'ai accueilli comme j'étais. Tu sais, elle avait fait des prises de conscience.
Avec une bête sur l'épaule. Puis
non, ouais, c'est ça. Mais tu sais, d'ailleurs, en parlant de prise de conscience, la plus belle prise de conscience que j'ai pris là-bas, c'est « je peux pas savoir ce que je sais pas ». Je peux pas savoir ce que je sais pas, ça veut dire qu'à l'école, on nous enseigne pas l'école de la vie.
Mais oui.
Même à l'âge adulte, j'ai pris conscience qu'on vit constamment des expériences nouvelles dans lesquelles on n'est pas habitué de patauger, habitué de s'adapter. Moi, là, c'est la première fois de ma vie que ça fait 7 ans que je suis en couple avec quelqu'un.
Okay.
Moi, c'est la première fois de ma vie que je suis le père d'un enfant qui a 4 ans. Moi, c'est la première fois de ma vie que je suis le beau-père d'une fille qui a 16 ans. Moi, c'est la première fois de ma vie que je paye une hypothèque plus que 3 ans. Tu sais, c'est pas parce que je suis rendu grand puis je suis rendu vieux
que t'étais invisible.
C'est tout, là. Tu sais, c'est ça. Fait que j'ai pris conscience que tu peux pas savoir ce que tu sais pas. Puis c'est pour ça que c'est jusqu'à la fin de ma vie, je vais me choisir, je vais me respecter assez, je vais m'aimer assez pour demander de l'aide toute ma vie.
Ouais.
Tu sais, dans le dernier enregistrement du podcast, j'ai même avoué que je demandais de l'aide à tous les jours de ma vie.
Mais il faut. Je pense que c'est ça. Quand tu es rendu à une place, je ne sais pas si on peut dire spirituelle, mais en tout cas, si tu es rendu à une place mentalement, où est-ce que tu devrais être? Comme je te dis, moi, je me considère... Puis tu sais, je dis sans prétention. Des fois, c'est drôle, là, je me confie, mais des fois, après l'avoir dit, je me sens tellement prétentieux de dire, moi, là, Sébastien, je m'éveille, là, je suis où est-ce que je voulais être? J'ai mon fils qui est parfait pour moi. Là, je veux pas dire que c'est parfait pour tout le monde, mais c'est pour moi, le fils parfait. Karine, j'ai la blonde parfaite pour moi. La job, c'est la job parfaite. Ma boss, Chantal Bédard, incroyable, compréhensive. Elle a très bien compris comment se concilier. Pas compris. Elle a respecté, moi, ma façon de concilier famille, travail, ma famille, mes amis, mes passions. Parce que, tu sais, Joe, t'en fais partie justement du podcast entre autres. Mais tu sais, photo, vidéo, podcast, tout est où est-ce que je voulais que ce soit. Fait que moi, à cette heure, c'est facile de demander de l'aide, puis j'attends pas d'être rendu à côté au pied du mur. Tu sais, je pense que c'est... T'as touché le point en disant t'en demandais tous les jours sans... Je dis pas que j'en demande tous les jours, mais je suis plus gêné d'en demander. Tu sais, je fais la farce tout le temps du pot de cornichon. Tu sais, moi, si le pot de cornichon s'ouvre pas, là, passer à ma blonde, Karine, tu peux-tu l'ouvrir? J'aurais pas... Puis là, on vulgarise énormément, mais c'est un petit peu ça. J'ai plus d'orgueil par rapport à demander de l'aide. Il faut que j'en demande par rapport financièrement, que ce soit amoureusement, que j'ai besoin d'un petit câlin, que j'ai besoin... Je le demande. J'attends plus d'être à côté au pied du mur, puis c'est peut-être ça qui fait que, comme tu dis, je suis tellement en paix avec qui je suis présentement, moi à 40 ans, bientôt 41, mais à 40 en ce moment, que je suis plus gêné de demander de l'aide. Ça me dérange même pas. Puis c'est, tu parlais non, au début des orgueils.
Plus tu es victorieux, Sébastien, d'avoir eu des résultats bénéfiques, d'avoir demandé de l'aide, ben plus le chemin se crée dans ton,
oui,
dans tes programmations, puis plus tu as envie de demander de l'aide. T'sais. Quand tu réalises que demander de l'aide, c'est toujours payant pour toi, il faut être un fou dans une poche pour arrêter d'en demander.
Mais tu sais, puis pour ceux qui ne le savent pas, moi puis Joe, on s'est connus justement dans un contexte, ça fait drôle de dire, mais de mort. Dans le sens que ma marraine est décédée il y a un petit peu plus d'un an. Puis un an. On dirait que c'est 15 ans qu'on se connaît. C'est fou, so vrai, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est, mais tout ça pour dire que c'est ça. J'ai connu Joe dans une célébration funéraire, qu'on appelle.
Oui.
Ma marraine qui est décédée, puis ma marraine, j'étais très, très proche d'elle aussi. C'était la sœur de mon père. J'étais leur quatrième fils, on peut dire. Puis Joe, il était le célébrant cette journée-là. Écoute. J'ai dit, écoute. Écoute, toi, l'auditeur, écoute. Écoutez, c'était ridicule comment que... Hey, mon parrain était là. Puis mon parrain en a même souri. Il a pleuré. Je ne sais pas si tu te rappelles. Tu demandais le plus beau souvenir de ma tante. Il a commencé à parler, puis à un moment donné, il s'est mis à pleurer, puis maman, il s'ennuyait, puis il y a, ouais, a eu de la peine là, mais tout le reste, il était souriant, il était de bonne humeur. Puis les gens autour, puis je le dirais tout le temps, j'étais avec mon frère, j'étais comme, il était où, lui, quand le père est décédé? Baptiste, t'as emmené un côté, justement, de, hey, ici, on n'est pas ici, là. Oui, c'est un événement triste, à la base. On n'est pas ici pour ça, là, OK? On est ici pour souligner le passage ailleurs. On est ici pour célébrer la vie de Francine.
Et surtout s'entraider entre nous qui souffrons.
Ben là, c'est ça. C'est là que j'allais emmener. Là, toi, tu t'es mis à te promener. Puis tu riais, puis tu faisais des jokes. Puis moi, j'étais comme, ah, oh, ça dit bien. Puis là, j'avais un genre de poids de moins que j'ai eu de la peine. C'est sûr, on ne peut pas s'empêcher d'avoir de la peine. Tu perds quelqu'un de proche, c'est bien évident. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça a fait qu'on s'est parlé tout de suite après. Je pense que le lendemain, je t'ai écrit sur Messenger ou Instagram, peu importe. Puis, tu sais, je t'ai expliqué un petit peu qu'est-ce que tu m'avais fait à moi, qu'est-ce que tu m'avais apporté. Puis, depuis ce temps-là, on en parle. Tu sais, les Soul Brothers, c'est un petit peu ça. Moi, puis Joe, on se parle régulièrement, podcast ou pas. On s'envoie des gifs, on s'envoie des cœurs. On s'aime d'amour tous les deux. Pourquoi? Parce que je suis allé chercher de l'aide. Joe en a fait partie. Quand je vous dis que j'ai lu son livre, c'est par après ça. Mais ça faisait partie de mon cheminement quand même. Mais c'est ça, je suis rendu à ce stade-là. Je suis rendu au stade.
En tout cas, quand tu as une première rencontre avec quelqu'un, c'est de l'aider à faire face à la mort, ça promet pour la suite de la relation.
Mais ben, me semble. Écoute, puis plus que ça, tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu après, on a enregistré un podcast sur ton Libertop, sur la mort, dans le fond. Là.
C'est, ah oui, hein, puis on parlait de ton père.
Oui, ça a vraiment été une zone de porte d'entrée. Puis c'est bien pour dire, parce que ça fait du bien. Puis je me rappelle d'avoir écouté un moment donné ce podcast-là. Puis le premier 5 minutes, écoute, on dirait que ma voix tremble tellement que c'est pénible d'en parler. Puis plus ça va, plus on se parlait. Puis on était à ce moment-là une discussion de boys. C'était plus une entrevue. C'était plus un sondage à savoir qu'est-ce qu'il faut faire à la mort d'une personne. C'était plus ça. Là. C'était rendu une discussion entre boys. Mais c'était de la fucking grosse aide que tu m'avais donnée à ce moment-là. Puis tu sais, c'est de même. Des fois, il ne faut pas oublier une chose aussi. Là, on parle d'aide thérapeutique. Tu sais, moi, ce que j'ai vécu, ce que toi, tu as vécu, c'est des thérapies, c'est de l'aide professionnelle. N'oubliez pas que des fois, je parlais à Jennifer Delaurier, une de mes chums cette semaine. Elle, c'est une petite étoile. On va l'appeler de même. Tu sais. C'est une petite fille qui est très énergique, est très spontanée, est très... C'est toi le filante, on va l'appeler le même. C'est toi le filante. Donc, Jen, si tu écoutes le podcast, salut ma petite étoile filante. Elle a le don, elle, d'être là pour les personnes juste en leur souriant, en leur disant coucou, en leur envoyant un petit mot. N'oubliez pas que ça en est de l'aide. Vous n'êtes pas obligé d'être un thérapeute, d'être... Comme dit Joe, au décès de ma marraine, là, c'est pas à moi nécessairement que tu voulais venir en aide. Puis j'allais pas nécessairement chercher de l'aide parce que j'avais quand même fait une bonne partie du deuil avec mon père, avec ma marraine. J'avais comme un genre de pattern déjà que je savais. Puis je suis allé en chercher sans même tant en chercher cette journée-là. Puis tout ça Pourquoi? À cause de ta présence. C'est pas nécessairement ce que tu disais, mais plus qu'est-ce que tu dégageais. Comment tu approchais ça? Les petits clins d'œil, les sourires dans le sens « Hey, on s'amuse. Okay? Mm. La vie continue. » Puis, tu sais, des fois, là, si je cherche comment le dire, je l'ai en tête, je sais que tu sais ce que je veux dire, ce que j'ai en tête, mais tu sais, des fois, un petit sourire, un petit texto, tu sais qu'un de tes chums va pas bien. T'es pas obligé tout le temps de tourner le fer dans la plaie pour dire « Hey, à matin, comment ça va versus ta relation, tu sais, ta
souffrance.
Ta souffrance, ouais, c'est ça, ta situation. Bon, on l'a voir.
Mais je sais ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, tu sais, on demande de l'aide. La première raison pourquoi on demande de l'aide, c'est qu'on a besoin, les êtres humains, de communiquer. On est des êtres de communication. On fait ça à chaque milliseconde de notre vie. On communique verbalement ou non verbalement. Un être humain est silencieux, ça communique aussi à partir du moment où c'est vivant.
Des fois plus.
Verbal, ça communique aussi. Oui, 90% est non verbal, fait que ça communique plus sans les mots. Une fois que la communication sort, puis qu'on arrive à libérer, puis c'est important que la communication soit rigoureusement honnête. Là. Pas de la pluie du beau temps, quand dans le fond, tu sais très bien qu'au fond de toi, il y a de la honte à libérer.
C'est ça, c'est ça.
C'est très important. Mais une fois que cette communication-là est faite, mais là, c'est la première raison pourquoi on demande de l'aide, c'est libéré, c'est réglé.
Ouais.
Deuxième raison pourquoi on a besoin d'aide, les êtres humains, c'est pour refaire le plein après avoir fait le vide. Puis le plein, ben, c'est comme tu dis, Sébastien, c'est pas nécessairement de revenir sur la situation puis de le comprendre davantage, puis d'en reparler, puis de rebrasser ta marde, c'est pas ça pantoute. La deuxième raison pourquoi on a besoin d'aide, on a besoin d'être épaulé, d'être supporté, c'est pour refaire le plein des vertus opposées à notre problème. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'exprimer ma peur, ben faire le plein de la vertu opposée de la peur, c'est la confiance.
Ouais.
Confiance en soi, confiance en la vie, confiance en les autres. Si j'ai besoin d'assumer que je suis un gars orgueilleux, et que c'est dur pour moi de demander de l'aide, là, puis à la limite, en le nommant, je me mets à broyer tellement j'ai honte de ne pas être capable de demander de l'aide. Je me sens petit dans mes shorts. Là. Bon, ben une fois que l'orgueil est brisé, là, la vertu opposée après ça, là, c'est de développer l'humilité, puis faire le plein d'humilité. Puis la prochaine fois qu'une situation comme ça se reproduise, je vais dire non, je ne suis pas juste un être orgueilleux, je suis aussi un être rempli d'humilité qui est capable de demander sereinement de l'aide. On peut faire ça avec tous les défauts de caractère. Une fois que j'ai libéré ma malhonnêteté, puis j'en ai parlé, puis je me suis excusé à tous ceux à qui j'avais causé du tort, puis j'ai demandé pardon, je fais le plein de quoi après? Là, je refais le plein d'honnêteté. Puis là, avec mes chums, c'est quoi je fais? Bien, j'ai des communications vraies, j'ai des communications honnêtes. Je ne reparle pas des vieilles histoires, tu sais, qui n'ont pas d'allure dans le passé. Je refais le plein. Bien, on fait ça avec tous nos défauts de caractère. C'est quoi le plein de la vertu opposée à notre défaut? Puis si on commençait à se remplir d'une vie vertueuse comme ça, ben on arrêterait de se créer une vie remplie de défauts de caractère à la marde, puis après ça, on se demande qu'on n'est pas bien, qu'on fait de l'anxiété, qu'on culpabilise, qu'on a honte. Parce qu'il est là, mais en même temps, je reviens, hein, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas.
Non.
Mais toujours, à tous les jours, on fait de notre mieux, mais 90% de la population ne se voit pas aller, puis ne se voit pas se remplir de honte en faisant des petits comportements à gauche puis à droite qui n'ont pas d'allure, parce que la société juge que c'est normal d'agir comme ça. Mais c'est pas parce que la société juge que c'est normal d'agir comme ça que tu remplis pas ta boîte à marde de honte. C'est important, là. C'est important que tu te brasses, que tu reçoives ton 2x4 d'en face 4-5 fois avant de réaliser que si tu continues de même, ça va faire 6, ça va faire 7, ça va faire 8, puis le jour. Les plus réveillés d'entre nous, c'est ceux qui sont écœurés de manger des coups de 2x4 dans le front. Puis là, ben, à un moment donné, tu te shakes, puis tu dis, moi, je pense que je vais faire d'autres choses.
Ben, c'est ça. T'sais. Puis je pense que quand on l'a dit. Une fois que tu as atteint ce niveau-là de autant d'orgueil, de tolérance, de nomme-le-tout qui fait que tu es prêt à demander de l'aide, tu n'as pas besoin d'attendre justement que ton verre soit vide avant de redemander de l'aide. T'sais, faire le plein, ça, t'es pas, je suis le meilleur exemple par rapport au char. Ma blonde est capable de te faire jusqu'à une petite barre, puis même si la barre est rendue rouge dans son gaz, elle va le tester pareil pour se rendre, voir, non, je suis encore capable. Tandis que moi, je suis à moitié, puis je fatigue, puis je vais le remplir dessus. Mm. C'est la même affaire avec l'aide. Tu n'es pas obligé d'attendre jusqu'à la fin. Fait, mon point que je disais, le petit sourire, le petit clin d'œil, le petit texto, le petit « Hey, bonne journée, mon chum. » Des fois, juste ça, là, vous n'avez même pas idée comment ça peut aider quelqu'un. La personne qui part juste mal sa journée, puis qu'il reçoit un cœur de son meilleur chum, ça peut tout changer. Fait que, tu sais, attendez pas d'être dans le plus bas fond de votre conscience, de votre estime de vous, de vos problèmes avant de dire « Hey, j'ai besoin d'aide. » Parce que 2x4, comme tu dis, il va partir de pas mal plus loin, il va frapper pas mal plus fort. Là.
Dites-vous bien ceci, s'il y a beaucoup d'êtres humains qui réussissent à survivre toute leur vie sans trop demander d'aide, c'est parce qu'il y en a une méchante gang qui offre de l'aide aussi de façon inconditionnelle à qui que ce soit. T'sais, fait que vos petits amis, là, puis je suis sûr que vous les avez déjà jugés, ceux-là, puis vous avez même déjà pensé qu'ils vous gossaient ou qu'ils vous tapaient ses nerfs quand ils venaient vers vous pour vous donner de l'amour, puis que vous les avez peut-être rejetés parce que ça vous mettait mal à l'aise, parce que vous n'êtes pas habitué. Mais c'est grâce à ces gens-là que vous n'avez pas besoin de demander trop souvent de l'aide. Parce que le matin où tu en as besoin, puis que lui, il passe, puis qu'il te fait un beau sourire, là, ben c'est le matin-là, tu n'as pas eu besoin de demander d'aide, puis ça a transformé ta journée. T'sais. Fait qu'il faut les bénir, ces petits anges-là, dans nos vies, pour arrêter de les faire chier. Parce que souvent, c'est des petits êtres sensibles, puis c'est eux qui mangent les plats de tout le monde, là. Mais c'est des petits anges, ces gens-là. Puis il faut s'en rendre compte, il faut les remercier, il faut être dans la gratitude quand ces personnes-là passent dans nos vies. Vous n'avez pas idée à quel point ils vous aident, mais on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Fait que ça se passe tout en arrière du rideau, dans notre subconscient. Puis en même temps, ben, ça change nos vies. T'sais.
Fait que n'ayez pas peur. Gardez l'œil ouvert aux aides qui se promènent autour de vous, aux petits anges, aux petites étoiles, nommez-les comme vous voulez. Mm. Portez attention, il y en a plus qu'on pense.
Il y a deux affaires, Sébastien, en terminant, que je voudrais dire. Oui. La première, c'est nous autres, les adultes, là, on a tous des enfants qui ont grandi dans des familles dysfonctionnelles. Puis ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que nos parents, ils n'étaient pas psychologues, puis ils n'étaient pas des maîtres de l'être non plus. Ils ont fait de leur mieux pour nous élever, puis on a tous grandi avec nos blessures. Fait que la première mission qu'on s'est toutes donnée dans la vie, c'est de prouver au monde entier qu'on était bon et qu'on était capable tout seul. Mais une fois que ce défi-là, là, commence à être écœuré de le relever, là, puis de voir prouver à tout le monde que tu es capable et que tu es bon tout seul, là, une fois que tu l'admets, là, que ça ne donnera rien, ça, de vouloir prouver au monde que tu es bon tout seul, là, puis que tu en finis, mais tu conclus ce chapitre-là, puis tu passes au deuxième chapitre de ta vie qui est « Je vais essayer d'apprendre à vivre ensemble, à vivre en relation, à donner puis à recevoir. » Puis je te jure que quand tu vas commencer ce chapitre-là de ta vie, tu vas trouver que c'est pas mal plus agréable que le chapitre de vouloir prouver à tout le monde à quel point tu es bon. Ça, c'est pas la première plus, affaire.
Pas mal plus agréable.
La deuxième affaire que je voulais dire en terminant, c'est que tu as bien beau écouter tout ça, ça a bien beau faire plein de sens, mais ça ne changera absolument rien dans ta vie si tu ne passes pas à l'action à partir de tout de suite. Fait que je ne sais pas ce que tu fais là, pendant que tu écoutes ce podcast-là, puis je ne sais pas ce que tu vas faire dans la prochaine heure, mais ce serait le temps de prendre un 5 minutes pour toi puis de te trouver un programme d'action quotidien. Parce que tu vas écouter toute ta vie des podcasts, ça va toujours faire bien du sens, ça va toujours te faire bien du bien quand tu vas l'écouter, mais ta vie, elle va toujours continuer d'être scalée entre les podcasts si tu ne passes pas à l'action et tu ne te choisis pas. Puis ça, là, ceux qui se choisissent, là, c'est ceux qui sont capables d'avoir de l'estime de soi. Puis ceux qui ne se choisissent pas, c'est ceux qui manquent d'estime pour se respecter suffisamment. Ça, c'est mes deux meilleurs conseils que j'ai à vous donner sur comment demander de l'aide.
Amen, mon frère. Amen. Un grand homme.
Namasté, Sébastien Jubainville. Je t'aime.
Joe, les gens veulent te rejoindre. Comment ils peuvent se prendre?
info@commercialjonathanriopel.com. Puis, on est en développement de la plateforme Liberta en ce moment, qui est www.liberta-coaching.com.
Aussi simple que ça. Allez voir sa page, ça vaut la peine. Jonathan Riopel, c'est toujours un plaisir de faire des podcasts avec toi. J'ai hâte de reprendre un café en vrai, que tout ce confinement-là soit terminé, qu'on puisse se faire un bon café, prendre un bon petit vino, se faire un podcast live, parler de nos enfants, se serrer dans nos bras. Ça va venir, on lâche pas. Donc sur ce, bonne fin de journée à tous. N'oubliez pas, partagez, commentez. likez, donnez-vous des suggestions, donnez-nous vos impressions. C'est toujours apprécié. La communauté grossit de jour en jour, de podcast en podcast. Puis ça, c'est grâce à vous autres. Donc, Spotify, Apple Podcasts, Audioboom, on est là partout. Le No Show, on est facile à trouver. On se dit à très bientôt.
Salut tout le monde. T'as-tu dit peace?
Ouais, un petit peace.
Dis-le un petit peu plus fort, je pense qu'ils n'ont pas compris.
On va le refaire. Peace.